Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet, son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Première négociation ce matin entre le gouvernement et les organisations syndicales sur la réforme des retraites. Quelques ouvertures, mais après un mois de blocage, le consensus est-il possible?
Eh bien, Édouard Philippe tente effectivement un pas, comme il le disait, vers les partenaires sociaux avec la convocation vendredi d'une conférence de financement. C'était un souhait de la CFDT, mais celle-ci et l'UNSA posent toujours comme condition le retrait de l'âge pivot d'ici là. Or, le gouvernement ne veut pas renoncer à ce fameux âge pivot à 64 ans, ni au projet de retraite par points dont l'intersyndicale CGTFO Solidaire réclame le retrait pur et simple. En attendant, c'est le ministère du Travail qui a tenté une négociation sur la pénibilité et les carrières. Alors, cette stratégie suffira-t-elle à renouer le dialogue social? Écoutez ce qu'en disait Caroline Diard, elle est enseignante-chercheuse en management et droit à l'EDC Paris Business School.
Il est évident que autrefois, quand on travaillait dans les mines, c'est pas la même chose que quand on est enseignant ou quand on est conducteur de train. Les caisses, elles ont leurs histoires. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, la vraie négociation, elle est là-dessus. Elle est de se dire quelles sont aujourd'hui les conditions de pénibilité, les conditions de travail, la capacité dans une corporation, dans un métier, d'un individu à pouvoir travailler jusqu'à un âge qui va être décidé, qui est l'âge pivot. C'est peut-être un moyen d'aboutir à une sortie de crise et aboutir à un texte parce que ça permet de recentrer le débat sur quelque chose qui est objectif. Si on commence effectivement à négocier au cas par cas et qu'on se retrouve avec des régimes qui sont censés ne plus être spéciaux mais qui deviennent finalement spécifiques, on n'a pas fait du dialogue social et on n'a pas abouti à la réforme qui était une promesse de campagne au départ.
Plusieurs catégories de salariés ont d'ailleurs déjà obtenu des aménagements au sein du futur régime, Xavier.
Oui, les policiers, routiers, marins, danseurs de l'Opéra de Paris, des personnels de l'aviation civile et j'en passe. C'est à ça que faisait référence Caroline Diard. Cette tactique a marché, mais elle s'expose aux revendications d'autres catégories et aux critiques de ceux qui, comme les Républicains, dénoncent une réforme vidée de sa substance qui perpétuerait donc les régimes spéciaux. Reste à voir le financement. Autre piste possible, dit Caroline Diard, là, une autorité légitime indépendante de l'État pour contrôler la fameuse valeur du point, une manière de réintroduire les partenaires sociaux en bout de course.
On passe au bref avec un autre front pour le gouvernement, les relations avec les États-Unis et la taxe numérique. Là encore, recherche d'un compromis.
Oui, c'est Bruno Le Maire et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui s'entendent sur un délai de 15 jours pour parvenir à un compromis global au sein de l'OCDE sur cette nouvelle fiscalité numérique, jusqu'ici fixée unilatéralement par la France à 3% du chiffre d'affaires des sociétés et qui touche principalement les GAFA. Entre-temps, la France gagnerait l'exemption de nouvelles taxes américaines sur 2,4 milliards d'euros d'exportation et Washington, qui a déjà perdu face à Airbus, éviterait un nouveau contentieux à l'OMC, réponse au forum de Davos à la fin du mois.
La France également offensive dans le domaine de la fiscalité classique avec une nouvelle liste noire des paradis fiscaux.
C'est une information exclusive. Les Échos, pour sa première révision depuis 2016, cette liste noire est plus réduite avec 13 États concernés au lieu de 17, parmi lesquels les Bahamas ou les Seychelles, le Panama notamment sous les projecteurs depuis le fameux scandale y est maintenu. D'autres, comme le Botswana, le Guatemala ou les îles Marshall, en sortent en raison de leurs progrès. Selon le Conseil d'analyse économique, la fraude fiscale des entreprises en France est estimée à 4,6 milliards d'euros par an.
Et pour finir, l'entreprise SpaceX devient le premier opérateur de satellites au monde.
Avec ce nouveau lancement réussi de 60 satellites, sa constellation Starlink va dépasser de 20 satellites les 140 appareils de la firme Planet Labs, qui eux servent à photographier la Terre en haute résolution. Starlink, lui, doit servir à fournir des connexions Internet haut débit en zone non couverte, mais SpaceX est talonné par son grand concurrent OneWeb qui prévoit, lui, 650 satellites très haut débit d'ici 2021.
Merci Xavier et à demain.